Merci beaucoup, Alessandro. Est-ce que je peux récupérer les 5 minutes d'Alessandro? On avait convenu. Hein. Bon. Alors, voilà, je plaisante un peu parce que le sujet dont je vais vous parler, je suis désolé, en fin de journée, n'est pas très comique. Bon. Il s'agit d'un conflit en cours entre les deux principales branches de l'islam, donc l'islam sunnite et l'islam chiite. C'est un conflit qui, pendant longtemps, n'a pas défrayé la chronique, mais qui risque aujourd'hui de dégénérer en conflit régional, voire international. En effet, le Moyen-Orient arabe est confronté actuellement à ce qu'on appelle en arabe une fitna, c'est-à-dire une discorde entre musulmans. Et cette fitna est sans précédent dans l'histoire de l'islam. L'ampleur du phénomène dépasse en effet toutes les discordes des premiers temps de l'islam auxquels on avait donc accolé ce terme de fitna, que ce soit par le nombre de morts, ici en Europe, quand on n'est pas touché, on a tendance à moins faire attention aux conflits extérieurs. Mais par exemple, la guerre confessionnelle qui a déchiré l'Irak entre 2003 et 2008 a fait, selon les estimations, entre 800 000 et 1 million de morts. Pour la plupart des chiites, pèlerins, membres de tribus, soldats, policiers, politiciens, qui ont été victimes donc d'une véritable croisade, si l'on peut dire, anti-chiite, de la part de ce qui est aujourd'hui l'État islamique et qui a englobé Al-Qaïda, qui avait débuté donc cette campagne de terrorisme à l'encontre de la première communauté musulmane d'Irak. Il y a également, pour montrer l'ampleur de ce conflit, le fait qu'il a entraîné l'effondrement de plusieurs États arabes. Et je voudrais notamment citer l'État irakien, l'État syrien et l'État yéménite, dont le délitement actuel est directement lié à ce conflit donc confessionnel. Une ampleur sans précédent également du fait de la régionalisation du conflit. Le conflit entre sunnites et chiites englobe désormais toutes les communautés chiites. Vous savez probablement que les chiites sont très majoritairement du haut des Cimins, mais il y a des minorités zaïdites au Yémen et ismaéliennes, qui sont très peu nombreuses, plus nombreuses dans le sous-continent indien que dans le monde arabe. Mais aujourd'hui, par exemple, même les zaïdites du Yémen, qui ne partagent pourtant pas une histoire commune avec les duodécimains, et les communautés hétérodoxes comme les alaouites de Syrie, qui pendant très longtemps ne se considéraient ni chiites, ni sunnites, ni parfois même musulmans, ces communautés ont été rattrapées par la guerre confessionnelle et n'ont aujourd'hui d'autre choix que celui du camp chiite face à un camp adverse qui les oblige à une identité qu'ils n'ont pour la plupart du temps pas choisi. D'une ampleur sans précédent encore par l'implication des États voisins qui se combattent par communautés confessionnelles arabes interposées, Iran d'un côté, aidé de Hezbollah libanais, Arabie saoudite, Émirats du Golfe et Turquie de l'autre. Enfin, il y a désormais une dimension internationale avec l'entrée en scène de la Russie en soutien, il faut bien le dire, à l'un des camps, en l'occurrence le camp chiite, donc une politique russe qui semble suicidaire car elle suggère une croisade orthodoxe. Je rappelle que les premiers Sukhoi qui sont partis bombarder les positions rebelles et islamistes en Syrie recevaient la bénédiction du patriarche orthodoxe de Russie. Et c'est comme si, finalement, cela suggérait une croisade orthodoxe contre l'islam sunnite. Je rappelle qu'environ 15% de la population de Russie, de la Russie, des républiques, des différentes républiques russes, est sunnite. Donc, on imagine le risque très grand que la politique actuelle de soutien au camp chiite fait peser sur la cohésion religieuse d'un pays, la Russie, déjà éprouvée dans ce domaine. D'ailleurs, les adversaires de la Russie ne s'y sont pas trompés et il n'a fallu que quelques heures pour que l'État islamique et le front Jabhat al-Nusra en Syrie déclarent le djihad contre la Russie et, je cite, pointent du doigt leurs adversaires comme étant une alliance entre la Russie orthodoxe et le camp chiite. D'une ampleur sans précédent, encore une fois, je le répète, parce que pour la première fois dans l'histoire, les autorités religieuses de part et d'autre se sont engagées dans la guerre et que ce soit de bon gré ou forcé, mais elles semblent les unes et les autres entraînées dans la tourmente. J'en donnerai un exemple. La plus haute autorité religieuse chiite, Ayatollah Sistani, a appelé au djihad contre l'État islamique en juin 2014 et le calife autoproclamé Abu Bakr el-Baghdadi ne voit que dans les chiites que des renégats, rafida, rawafed en arabe, promis à la mort. Et effectivement, on voit que partout où l'État islamique s'est implanté, les chiites ont été tués comme s'il ne s'agissait pas de musulmans. Donc on est dans un contexte d'anathème réciproque. À la vue de ce qui se passe aujourd'hui dans les relations entre les deux grandes communautés musulmanes, on mesure à quel point les tentatives de rapprochement entre sunnites et chiites des années 1950, hein, qui avaient notamment débouché sur la tentative de faire du rite Ja'fari chiite le cinquième rite officiellement enseigné à El-Azhar. Donc on voit à quel point ces tentatives de rapprochement entre les autorités religieuses des uns et des autres semblent loin. Alors, l'origine du conflit, on entend souvent dire que le conflit qui oppose sunnites et chiites trouve sa source aux origines même de l'islam. Donc, je l'ai dit, les premières fitnas, discordes, avaient alors mis aux prises les partisans d'Ali, cousins et gendres du prophète, à ceux des Omeyyades. La toute première fitna désigne habituellement la guerre entre musulmans qui a suivi l'assassinat du calife Osman en 656 et ensuite la bataille du Chameau où Ali l'a emporté sur le clan des Quraychites de la Mecque. En fait, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de savoir à qui devait revenir le pouvoir en islam après la mort du prophète Mohammed. La question, il faut le répéter, n'était pas de pure forme, car au-delà des personnes et des clans, c'était bien la conception du pouvoir en islam qui était en jeu. Les sunnites ont pris le parti des califes et à leur suite des dynasties omeyyades et abbassides, là où les chiites, attachés à une vision légitimiste du pouvoir, dénieront toute légitimité aux califes qui se succédèrent, auxquels ils préférèrent une lignée de 12 imams infaillibles, descendants du prophète jusqu'au 12e imam, qui, comme vous le savez, a été occulté, ce qui a frappé du sceau de l'illégitimité tous les pouvoirs politiques depuis donc l'entrée dans l'occultation majeure. Mais la question qui se pose, évidemment, est de savoir si les guerres confessionnelles qui ensanglantent aujourd'hui le monde arabe et au-delà le Pakistan, par exemple, peuvent s'expliquer par cette opposition plus que millénaire. Dans le monde arabe, en particulier en Irak et dans le Golfe, une majorité des chiites sont d'anciens sunnites convertis au chiisme. Ce mouvement de conversion a été massif et il s'est accéléré à l'époque moderne, les derniers grands mouvements de conversion datant du début du XXe siècle. Donc il faut se poser la question, pour quelles raisons des sunnites ont-ils opté en masse pour le chiisme ? Et on est là à l'origine des clivages actuels qui ont peu à voir avec les différences dogmatiques telles qu'elles s'étaient exprimées et politiques au premier temps de l'islam. Les dogmes religieux viennent cimenter des identités largement constituées par des différences sociales nées à l'époque moderne. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est la hiérarchie sociale du monde arabe bédouin, donc propre au monde arabe, qui est à l'origine du clivage confessionnel que nous connaissons aujourd'hui. En effet, le monde arabe a été le dernier grand réceptacle des invasions nomades. La dernière grande migration remonte au début du XXe siècle, lorsque la confédération tribale des Chamars, qui a été vaincue par les Saoudiens, a dû quitter la capitale de Haïl, donc dans le nord de la péninsule arabique, pour migrer vers le nord. Les Chamars se sont répandus en Irak, en Syrie, en Jordanie, jusqu'au Liban. Il faut, quand on fait l'histoire des dernières migrations nomades au Moyen-Orient arabe, on voit que ces invasions ont été particulièrement violentes, notamment en Irak, à Bahreïn et dans le Golfe. Je vais citer deux, trois exemples. À la fin du XVIIIe siècle, l'actuelle famille régnante sunnite des Al-Khalifa s'est imposé à la population sédentaire de Bahreïn. En Irak, les Ikhwan wahhabites, qui étaient ces membres de milices wahhabites qui avant qu'ils soient eux-mêmes massacrés par les Saoudiens, mais qui ont tenté une politique d'expansion. Donc les Ikhwan wahhabites ont continué à attaquer les paysans sédentaires de la vallée de l'Euphrate et les villes saintes chiites situées en lisière des déserts jusque dans les années 1920. La dernière grande attaque date de 1924 où la ville de Kerbela, la ville sainte de Kerbela, a été mise à sac et d'ailleurs avec exactement les mêmes rituels que ceux que l'État islamique met en scène contre les tombeaux de saints, qu'ils soient soufis ou chiites. Donc ces régions, on le voit, l'Irak, Bahreïn, la péninsule arabique, ont plus que tout autre illustré l'opposition séculaire entre les nomades, qui étaient des puissants guerriers, et des communautés sédentarisées ou semi-sédentarisées, qui étaient à la merci des premiers. Les paysans et les pêcheurs de la basse Mésopotamie ont très vite été obligés de payer un tribut, entre guillemets, de protection aux seigneurs du désert, ce qui ne les mettait nullement à l'abri des razzias incessantes. Donc, on voit à partir de cette configuration à la fois sociale, mais aussi liée à la géographie, que la majorité des chiites d'Irak sont d'anciens sunnites, mais c'est aussi le cas pour les chiites de la péninsule arabique. Ils étaient membres de tribus arabes originaires de la péninsule arabique, autrefois nomades. En s'installant en Mésopotamie, le nouvel environnement, avec l'abondance de l'eau et des pâturages, a changé radicalement et leur mode de vie s'en est trouvé profondément modifié. Devenus paysans ou pêcheurs, ils se sont sédentarisés dans les plaines fertiles où le nomadisme n'était plus nécessaire. Toutefois, je l'ai dit, donc la sédentarisation signifiait dans le code de valeurs bédouin une déchéance irrémédiable puisque les sédentarisés devenaient les vassaux des tribus demeurées nomades. Ces dernières méprisaient souverainement le travail de la terre et pis encore la pêche et ne concevaient pas de vivre autrement que grâce au maniement des armes. Donc on a là déjà une configuration qui nous explique pourquoi le point commun de toutes les communautés chiites du haut des Cimènes dans le monde arabe, c'est d'être des communautés dominées socialement et politiquement. Et peut-être je vais me prendre l'exemple de l'Irak, qui est l'exemple le plus parlant à mon avis. Alors les chiites d'Irak, dans ce processus de sédentarisation, ont très vite occupé massivement le bas de l'échelle sociale. La conversion au chiisme de la Perse au XVIe siècle a servi à la dynastie séfévide, donc au-delà de la frontière, pour créer une forte identité confessionnelle à un État qui se posa très vite en rival de l'État ottoman. le caractère confessionnel du pouvoir ottoman, qui était porte-drapeau du sunnisme face à la Perse chiite, ne pouvait qu'aggraver la condition chiite. Je rappelle que dans le pluralisme islamique propre au système politique ottoman, les chrétiens et les juifs étaient reconnus, mais pas les chiites. Les chiites n'avaient aucune reconnaissance et, par exemple, au Liban, il a fallu attendre le mandat français pour qu'il y ait un mufti Jaafari, donc chiite, en 1927. Les chiites étaient contraints, à l'époque ottomane, de suivre le rite sunnite quand ils n'échappaient pas à la loi du pouvoir central, ce qui était le cas très souvent en Irak. Bien que très majoritairement arabes, donc les chiites d'Irak étaient volontiers présentés comme une cinquième colonne iranienne en territoire ottoman. Les élites arabes et kurdes, sunnites, qui étaient les relais locaux du pouvoir ottoman, étaient donc toutes sunnites. Les chiites se trouvaient totalement exclus du pouvoir politique et très peu ont pu faire une carrière militaire qui demeura réservée aux sunnites. Au courant du XIXe siècle, la porte a initié un processus de privatisation des terres au profit d'une classe de propriétaires terriens qui ont engagé les campagnes sur la voie d'un féodalisme dans le sens européen du terme, c'est-à-dire que les paysans ont perdu la propriété collective des terres qui était le propre du tribalisme et de la façon dont les tribus géraient les terres pour donc un système où les paysans devenaient les propriétés privées des seigneurs, des grands chefs tribaux, un peu à l'image de ce que l'Europe avait connu. Un tel asservissement, donc de paysans qui avaient été autrefois des nomades libres et qui se considéraient comme égaux avec les autres tribus, acheva de convaincre de nombreuses tribus de se convertir au chiisme. Pour quelle raison ? Le chiisme répondait en effet aux aspirations profondes de ces hommes de tribu réduits à l'état de serfs. Par son refus de l'injustice et le devoir religieux qu'il fait de se révolter contre l'iniquité, il était en adéquation parfaite avec le sentiment d'humiliation et de déchéance de la masse de ses paysans. Par ailleurs, il faut rappeler que la conversion au chiisme a été facilitée par l'émergence au courant du XIXe siècle d'une autorité religieuse chiite intervenant de façon croissante dans le champ politique. Donc dans plusieurs domaines, lutte contre le despotisme des souverains musulmans, et là ça concernait autant les sunnites que les chiites, hein. Les chats d'Iran ont été bien payés pour le savoir, refus de la domination européenne, et l'islam chiite donc devenait au cours du XIXe siècle une véritable arme de combat, rompant avec un quiétisme millénaire de ces mêmes autorités. On en est arrivé au point où, au début du XXe siècle, on disait en Irak, les tribus sont l'armée des mouchtahides. Les mouchtahides étant ces grands religieux chiites autorisés à pratiquer l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation des textes sacrés par l'usage de la raison. Ceci s'est vérifié entre 1914 et 1925. En 1914, les grands ayatollahs ont été paradoxalement ceux qui ont répondu à l'appel au djihad du sultan calife d'Istanbul contre l'invasion britannique, à un moment où les élites sunnites d'Irak pactisaient avec les Britanniques. Et en 1920, alors que l'immense majorité des élites arabes sunnites manifestaient leur acceptation de l'occupation britannique et du nouvel État irakien sous mandat, la ville sainte chiite de Karbala devint la capitale du plus important mouvement armé que le Moyen-Orient ait connu contre la domination européenne. Donc on le sait, la révolution de 1920 a été vaincue par les armes britanniques. Les dirigeants religieux chiites se sont repliés dans les villes saintes et ils ont entamé une traversée du désert qui a duré plusieurs décennies. Le nouvel État irakien a donc pris la suite du pouvoir ottoman pour imposer à la majorité chiite un pouvoir à coloration confessionnelle sunnite qui a demeuré la marque de l'État irakien jusqu'à son effondrement en 2003 lors de l'intervention américaine. Entre-temps, l'émergence d'un véritable féodalisme à l'irakienne, comme je l'ai dit, avec la tyrannie récurrente des chers, grands propriétaires terriens, a suscité un exode rural sans comparaison avec un autre exode dans la région, puisqu'il a vidé littéralement les campagnes irakiennes. Fuyant la misère et la cruauté des grands chers, des millions de paysans chiites sont venus s'entasser dans les grandes villes où ils ont créé d'immenses bidonvilles. le quartier symbolique que vous devez connaître de Madinat Sadr, Sadr City, le bastion du mouvement sadriste à Bagdad, qui fait près de 2 millions d'habitants, en est aujourd'hui l'illustration la plus frappante. Il faut conclure. Ce quartier fait le quart de la population de la capitale irakienne. Et donc, on voit que les chiites avec les autres communautés chiites du monde arabe, au Liban, à Bahreïn et dans la péninsule arabique, donc ce point commun d'être dominé socialement et politiquement. Bon, là, je n'ai pas le temps de parler des chiites libanais. Bon, les chiites libanais ont été, de toutes les communautés libanaises, la dernière communauté à sortir de l'oubli, hein, et puisqu'elle avait été très largement délaissée par les différentes ententes entre maronites, druzes et sunnites, qui avaient notamment présidé à la fondation du Liban en 1920. Alors, à ce tableau très misérabiliste, si l'on peut dire, il y a quand même l'exception notable des Zaydites du Yémen, qui, au contraire, ont gouverné les hauts plateaux yéménites pendant plus de 1000 ans. La dynastie des imams Zaydites a dominé également les basses terres du Yémen jusqu'en 1962, année où la guerre civile a mis un terme au pouvoir multiséculaire donc, de cette dynastie. Je vais terminer donc je passe sur toute une période que j'appelle d'illusion nationale durant lesquelles les chiites, du fait de la défaite du mouvement religieux, se sont massivement tournés vers les mouvements laïques. Mouvement laïque essentiellement les partis communistes et les partis basques, qui étaient l'un des partis proclamant de façon explicite sa laïcité. En effet, les nouvelles élites chiites pensaient que par la réforme sociale ou par le nationalisme arabe, les discriminations confessionnelles pouvaient être résolues. Mais on le sait, ça n'a pas été le cas. Et à partir de la fin des années 50, on a vu un mouvement de réveil du mouvement religieux qui s'est d'abord manifesté pour reprendre sa place contre les partis laïcs et notamment contre les partis communistes. On est dans les années 1950 avec l'apparition au Liban du mouvement des déshérités de l'imam Moussa Sadr qui va être à l'origine du Hezbollah. On est à Najaf à un moment où il y a une pépinière des futurs cadres des mouvements islamistes autour de l'imam Khomeini quand il vient en exil, donc exilé par le Shah. Et on va voir donc à partir des années 50 un mouvement d'émancipation de toutes les communautés chiites, que ce soit au Liban, en Irak et dans la péninsule arabique. Mais ce mouvement d'émancipation va très vite être considéré comme une menace, non seulement par les régimes sunnites autoritaires, mais hélas aussi par les sociétés civiles sunnites qui vont être très vite rattrapés au moment où les printemps arabes font émerger les sociétés civiles par le confessionnalisme. Et aujourd'hui, l'échec de la reconstruction politique de l'Irak, le choix des Américains de prendre les exclus de l'ancien système chiite et kurde aux dépens de ceux qui avaient le monopole du pouvoir, les Arabes sunnites, et les printemps arabes en Syrie, ont abouti au même résultat, à savoir un éclatement de la société sur lequel s'est greffé très facilement des organisations comme l'État islamique qui a profité de la déliquescence des États. Et je terminerai, c'est ma dernière phrase, je le promets, l'État islamique a réussi, hélas, à convaincre les uns et les autres de l'impossibilité qu'ils avaient désormais de vivre ensemble. C'est ce qui explique notamment que l'État islamique ait pu s'imposer comme le représentant majoritaire des Arabes sunnites d'Irak et qu'il ait pu rentrer à Mossoul sans tirer un seul coup de feu en juin 2014. Merci. Thank you.